enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Ça, c'est important de réaliser ce soir encore, c'est un peu le thème de cette soirée, que Dieu est celui qui marche devant nous. Et mieux encore, il est celui qui est avec nous. Regardez dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Le temps des fêtes s'en vient. Et là, on est dans un texte de la Nativité. Évangile selon Matthieu. Matthieu, c'est tout au début du Nouveau Testament. Chapitre 1er, verset 18. Vous avez trouvé ? Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, et il dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Elle prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Voici donc un texte simple par rapport à Luc. On est là donc, c'est l'histoire de la nativité. Un ange, là, vient parler à Joseph et lui expliquer ce qui est en train de se passer. Parce que voyez-vous, Marie se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Je sais qu'il y a plusieurs personnes des fois qui se posent la question, mais vous là, vous n'êtes pas catholique. Vous êtes catholique? Non, on n'est pas trop catholique. Mais alors Marie, la conception de Jésus, oui, Jésus est né d'une vierge. C'est marqué, on l'a lu ensemble. Nous croyons ce qui a marqué dans la Bible. Nous croyons ce qui est écrit dans le livre. Et non seulement c'est écrit là, dans l'Évangile selon Matthieu, mais même encore, Matthieu nous le rappelle, le prophète Ésaïe l'avait déjà annoncé. Le prophète Ésaïe l'avait annoncé, voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Imaginez ce qui se passe là. Ça fait quelques centaines d'années que Ésaïe, prophète de l'Éternel, va mettre par écrit ces paroles, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Et quelques centaines d'années plus tard, voici que cette prophétie s'accomplit. Vous savez, il n'y a pas de hasard là-dedans. Et ce serait pour la part d'un prophète prendre beaucoup de risques d'annoncer quelque chose comme « Une vierge sera enceinte sans qu'elle ait connu d'homme, elle sera enceinte. » Oh là, c'est prendre des risques là, mon pauvre Ésaïe. Ah, Ésaïe ne verra jamais s'accomplir. Mais s'il dit ces choses, c'est pas qu'il l'a inventé de lui-même, mais c'est parce que c'est Dieu qui parle au travers du prophète Ésaïe. Est-ce qu'il dit ces choses pour ses contemporains? Ben non, ils n'ont rien vu. Il dit ces choses quelque part pour nous. Et Matthieu le comprend bien quand il dit « c'était écrit ». Ce qui veut dire « il y avait quelque chose de prévu ». C'était prévisible. C'est pas quelque chose comme ça là d'improviser. La venue de Jésus sur la terre des hommes, c'est pas une venue improvisée. C'était annoncé, préparé. Et même si on reprend d'autres textes, dès la fondation du monde, Jésus était celui qui devait venir pour sauver son peuple. Alors voici que Marie, fiancée, se retrouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà qu'elle va porter un enfant. Enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Saint-Esprit est puissant. Il peut faire de grandes choses. Et il peut venir amener la vie, même d'une manière surnaturelle. Oh, beaucoup de personnes ont du mal à croire ces textes-là en disant non, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Comment une jeune fille peut-elle devenir enceinte comme ça par la vertu du Saint-Esprit? À tel point qu'on en a fait de cette expression comme une boutade, je ne sais pas si on l'utilise au Québec souvent, en disant ça va quand même pas se passer comme ça par la vertu du Saint-Esprit. Quand même, soyons sérieux. Justement, soyons sérieux. Saint-Esprit fait de grandes choses. Et ce qui paraît impossible aux hommes, ce qui paraît fou, ce qui paraît insensé, le Saint-Esprit est celui qui vient mettre la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, vient mettre la vie pour un but précis. Et déjà, notez bien que dès la création du monde, dès la Genèse, on voit là que, alors que Dieu avait fait la terre et les cieux, eh bien, Saint-Esprit se mouvait au-dessus de la terre et des cieux. Et puis on voit que Dieu avait tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Et par sa parole, c'était annoncé d'avance par le prophète Ésaïe. Par sa parole, Dieu dit que la terre soit et la terre fut, que la lumière soit et la lumière fut, et par l'action du Saint-Esprit. Il y a là quelque chose de vivant qui passe de la mort à la vie. Souvenez-vous d'Adam. Adam et cette masse informe. Enfin, Dieu va former à partir de la boue un Adam. Adam. Il signifie littéralement un glaiseux. Il n'y a que Chouraki qui peut traduire que le glaiseux pour Adam. Nous, dans nos Bibles, on voit Adam, mais Chouraki, lui, a traduit le glaiseux. Adam, c'est le glaiseux, celui qui est issu de la glaise, de la boue, parce que c'est ce que signifie son nom. Mais Dieu souffla sur Adam, le souffle de Dieu, l'esprit de Dieu, qui est venu en Adam, a fait de lui un être vivant. De la même manière aujourd'hui encore, le Saint-Esprit est celui qui veut donner la vie. D'une manière surnaturelle, c'est impossible aux hommes, ça défie toutes les lois naturelles, mais laissez-moi vous dire que c'est vrai, ça fonctionne, ça marche comme ça avec Dieu. Dieu est celui qui fait des choses extraordinaires. Pourquoi ? Parce que c'est annoncé, parce que c'est prophétisé, parce que c'est déclaré à l'avance, parce que ça fait partie des desseins, des plans de Dieu. Il en a décidé ainsi. Il donnera un sauveur et tu l'appelleras Jésus. Voilà donc que Marie est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, lui, en homme de bien, d'accord, mais un homme qui raisonne et dit, mais non, c'est pas possible. Voilà qu'il est prêt à répudier Marie et un ange vient lui révéler ces choses, vient lui parler en disant, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et c'est là que cet ange va tout expliquer à Joseph. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Ce qui signifie littéralement Jésus, sauveur. Tu l'appelleras le libérateur. Tu l'appelleras le sauveur. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous, Dieu ne fait rien par hasard. Jésus n'est pas venu sur la terre par hasard. C'était prévu dès les temps anciens. Il vient pour sauver son peuple des Romains, non. Sauver son peuple de la tyrannie du roi Hérode, non. Sauver son peuple de ses péchés. Peut-être quelqu'un dira aujourd'hui, moi j'ai besoin d'un libérateur, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me sauver du gouvernement du Québec parce qu'ils veulent prendre mes sous pour payer des impôts. Moi j'ai besoin d'un libérateur, j'ai besoin de quelqu'un qui vienne me sauver, me sortir de telle et telle circonstance. Non, Dieu a envoyé Jésus comme sauveur pour libérer son peuple de ses péchés. Parce que c'était ça le problème. Et aujourd'hui encore, le problème, c'est le péché. Le problème n'est pas ailleurs. Cherchez pas le problème dans la société. Certains disent, ben, problème c'est la société, le problème c'est l'éducation, le problème c'est le système, le problème c'est telle ou telle chose. Alors, on va faire de la politique, on va s'engager dans toutes sortes de directions, on va faire de la philosophie, on va faire toutes sortes d'affaires. Non. Le problème c'est le péché. Le péché qui est venu corrompre la relation que l'homme avait avec Dieu. Corrompre la relation que l'homme avait avec Dieu. Souvenez-vous dans le jardin d'Éden, alors que Dieu avait fait l'homme et la femme, Dieu les fit à son image, eh bien, il est dit que chaque jour, Dieu se présentait au milieu du jardin pour s'entretenir avec eux. Dieu était avec eux. Et il y avait là une communion, un partage, un dialogue. Dieu est avec eux. Mais à cause du péché, parce qu'ils ont écouté le tentateur, le diable, Satan, parce que là, ils ont mangé du fruit interdit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont dû quitter le jardin d'Éden. Ils ont dû sortir du jardin d'Éden. Et par là même, sortir de la présence de Dieu. Et ensuite, quand on lit la Bible, donc à partir de ce récit de la Genèse, du début de la Bible, on voit toute l'histoire. Comment Dieu, dès ce moment-là, a voulu se rapprocher de l'homme. Comment Dieu a voulu être là en contact, en communion avec l'homme. On voit comment Dieu va toucher le cœur des patriarches, comment Dieu va parler à l'un, à l'autre. On voit l'histoire d'Abel, de Caïn, comment Abel, là, va faire monter quelque chose d'agréable à Dieu, va comprendre. On voit l'alliance que Dieu va faire avec d'autres encore, j'allais dire avec Noé, mais avant Noé, il y a par exemple... Que j'allais dire. Dieu va faire l'alliance avec Noé, après Noé, on va aller après Noé, il ne faut pas que je me trompe dans ma chronologie là, après Noé, il y a tellement d'exemples que je ne sais pas lesquels citer, mais je vais en prendre un, prenons Jacob là, qui est là dans une nuit, en train de dormir, et voilà qu'il voit une échelle, et qu'il voit des anges qui montent et qui descendent, et qui vont où ? Dans le ciel, dans la gloire, dans la présence de Dieu. Et voilà que quand Jacob se réveille, il se dit, mais ce lieu, Dieu était là, et je ne le savais pas. Cette phrase m'a toujours interpellé, quand Jacob se réveille de son sommeil, et dit, Dieu était là, et je ne le savais pas. Et du coup, il va appeler ce lieu Bethel, la maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Dieu était là et je ne le savais pas. Et est-ce que c'est pas le genre de phrase que nous, aujourd'hui encore, en 2004, enfin bientôt 2005, on est capable de dire Dieu était là et je ne le savais pas. Des fois, on peut d'une manière injuste dire, mais où est Dieu? Que fait-il? Pourquoi Dieu n'est pas là? Pourquoi Dieu n'est pas avec moi? Pourquoi Dieu n'est pas là de mon côté? Que fait Dieu? Où est-il? Et quand Dieu vient parler à notre cœur, que ce soit au travers d'un songe, d'une vision, quand Dieu vient parler à Joseph au travers d'un ange, eh bien, pour tout devient clair, Dieu est là. Dieu est là, Jacob. Tu n'es pas seul dans ton pèlerinage. Dieu est là avec toi. Il est là en train d'accomplir l'alliance, la promesse qu'il a faite à ton père, qu'il t'a communiqué, qu'il t'a donné. Dieu est là. On voit ensuite au travers du récit de Moïse et de la construction du tabernacle, construction de cette tente où dans laquelle il y avait le lieu saint, le lieu très saint. Quel était le but de toute cette affaire? J'habiterai au milieu de mon peuple. La volonté de Dieu encore. Alors que le peuple d'Israël devient le peuple de Dieu, c'est clair, il dit « J'habiterai au milieu de mon peuple. Dieu veut être au milieu. Non pas être loin, quelque part, sur une montagne, en disant, vous, vous habitez dans les plaines, moi, je serai dans la montagne. Non, je veux être au milieu de vous. À l'époque, c'était un peuple nomade. Ils étaient là, en route vers le pays promis, vers la terre promise. Ils habitaient dans des tentes. Eh bien, Dieu aussi va dire, ben, moi aussi, je vais habiter dans une tente et je vais vous suivre. Je vais marcher avec vous. Je vais être avec vous. Si vous êtes dans tel coin, j'y serai. Si vous allez plus loin, je serai avec vous. La volonté de Dieu, c'est d'être avec nous. C'est pas que lui soit dans un endroit et que nous, nous soyons ailleurs. C'est pas de dire, ben, Dieu, il est quelque part dans le ciel. Il est quelque part dans, au-dessus des nuages. Il est quelque part au loin. Et puis moi, je vis ma vie ici. Et moi, j'ai mes difficultés. Moi, j'ai mes problèmes. Je suis seul. Je vis là. Non. Dieu veut être avec nous. Et la venue de Jésus sur la terre, c'est la conclusion, quelque part, de tout ce qui a été amorcé durant les centaines d'années auparavant. On l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu qui descend au milieu des siens. C'est Dieu qui se fait homme, qui la parole qui est incarnée, Jésus qui vient habiter au milieu des hommes, étant devenu homme lui-même dans un but précis pour sauver son peuple de ses péchés. On l'appellera Emmanuel. Jésus est venu sur la terre des hommes pour être au milieu d'eux. Peut-être quelqu'un dira, ben oui, mais ça c'est du passé, parce que maintenant Jésus n'est plus au milieu d'eux. Puisque, si je me souviens bien, Jésus est ressuscité et il est remonté au ciel. C'est vrai. Alors quelqu'un dira, mais alors, si Jésus était venu là sur la terre des hommes, pour être au milieu des hommes, pour être près d'eux, pour être proche d'eux, pourquoi est-il reparti au ciel, comme pour tout d'un coup se retrouver au loin? Jésus l'explique dans l'évangile de Jean en disant, il vous est avantageux que je m'en aille. Il y a votre avantage que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si Jésus était présent sur la terre des hommes, il était là présent d'une manière physique, il était là présent d'une manière personnelle, il était à Capernaum, ou il était à Nazareth, ou il était à Jérusalem, ou il était dans le petit village de Béthanie. Mais Jésus était là, mais pendant que Jésus était à Capernaum, il n'était pas à Béthanie. Pendant que Jésus était dans la contrée du Jourdain, il n'était pas à Jéricho. Et Jésus était là, un endroit où, oui, il était au milieu des hommes, il a béni, il a secouru, il a parlé, il a fait de belles et de grandes choses, mais il se trouvait à un endroit à la fois. Alors que, une fois que Jésus va remonter au ciel, il va devenir comme omniprésent, partout, plusieurs endroits à la fois, de par son esprit. Et c'est comme si c'était tout le message de l'évangile selon Matthieu. Ça commence avec cette chose précise, voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour être le sauveur de son peuple et sauver le peuple de ses péchés. Jésus est venu pour être Emmanuel, l'accomplissement de la prophétie du prophète Ésaïe, pour être Dieu avec nous. Et regardez tout à la fin de l'évangile selon Matthieu. Si on va au dernier chapitre de Matthieu. Donc on est là dans Matthieu 28. Et le dernier verset. Vous savez, des fois quand on fait des études littéraires, on dit il faut regarder la dernière phrase du livre. C'est comme là la phrase clé, voir comment ça se termine, sur quelle couleur ça se termine. Mais regardez comment se termine l'évangile selon Matthieu. On va prendre au verset 19. Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dès le départ, Matthieu annonce la couleur en disant Jésus, c'est Emmanuel comme le prophète l'avait annoncé, Dieu au milieu de nous, il vient au milieu de nous. Et à la fin, là, la dernière phrase, comme une déclaration solennelle, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on réalise ce soir que Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous, que Jésus est celui qui est venu sur la terre des hommes, qui est allé jusqu'à mourir sur le bois du calvaire, afin justement de briser le mur de la honte, de l'inimitié qui était entre Dieu et les hommes. Il est venu abattre ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Non, dira Dieu, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre, mon bras n'est pas trop court pour agir, mais ce sont vos péchés qui mettent un obstacle. Jésus est venu anéantir cet obstacle, est venu anéantir ce qui empêchait les hommes d'être dans la présence de Dieu et ce qui empêchait Dieu d'être avec les hommes, le péché. Jésus est venu régler le problème du péché en mourant sur la croix du calvaire. Pourquoi ? Afin que maintenant, dorénavant, en Jésus, il n'y ait plus de condamnation. Et que parce que nous avons été lavés, purifiés de nos péchés par son sang, pour reprendre ces expressions de l'apôtre Paul, eh bien parce que Jésus est venu accomplir cette œuvre de salut, il est le sauveur, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, et s'il vient sauver son peuple de ses péchés, c'est pour un but bien précis, restaurer la communion qu'il y avait dans le jardin d'Éden, et pour que maintenant, comme tout à nouveau, parce que nos péchés ont été lavés, parce que nos fautes ont été pardonnées, parce qu'il est venu là nous restaurer, nous réhabiliter, parce qu'il est venu faire de nous une créature nouvelle, eh bien il peut y avoir, comme tout à nouveau, une communication avec Dieu, une communion avec Dieu, et que Dieu soit pour nous Emmanuel, celui qui est avec nous. Et c'est la promesse que Jésus fait avant de remonter au ciel, je suis avec vous tous les jours. Et s'il était avantageux que Jésus remonte, c'est parce que Jésus avec nous tous les jours. Eh bien, c'est cette présence par son Esprit Saint, par l'Esprit de Jésus, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul aussi dans l'Épître aux Romains. Eh bien, Jésus est là avec nous. Jésus a fait cette promesse, là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce qui fait que aujourd'hui, Jésus est avec nous là à Drummondville, sur le boulevard Lemire. Mais il est aussi avec d'autres qui se réunissent dans un autre lieu. Il est aussi avec d'autres qui se réunissent même sur toute la surface de la terre. Et quelle grâce et quel privilège de réaliser que ce soir, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, qui est là dans ce lieu. Et si Jésus vient pour résider, habiter au milieu de nous, c'est pour apporter sa lumière, c'est pour apporter sa paix. C'est pour apporter sa joie, c'est pour apporter son secours, c'est pour apporter ses bienfaits. Jésus veut être avec nous. Mais la question sera peut-être ce soir, est-ce que nous voulons être avec lui? Est-ce que nous voulons de sa présence? Allons-nous nous cacher de sa présence tel que le fit Adam, il se cache parce qu'il a honte à cause de son péché? Mais si on réalise c'est le péché là qui nous empêche d'être dans la présence de Dieu, qu'on puisse peut-être dire ce soir, viens régler le problème de mon péché, Seigneur, viens me laver, viens me purifier, puisse se repentir, qu'on puisse marcher avec lui, qu'on puisse dire, Seigneur, je réalise que tu es venu dans un but bien précis, pour sauver, pour secourir, pour libérer du péché, afin d'être avec nous. Mais quelle joie dans mon cœur il y a de savoir que Jésus est avec moi. Est-ce qu'il est avec vous? Oui? Ça vous fait rien de plus savoir que Jésus est avec vous? Il est là. Même l'apôtre Paul va dire, il vit en moi. Il est là, il a fait, il vit plus sous une tente. Il vit plus là dans le temple de Jérusalem que Salomon, par exemple, va construire. Il est plus là, dans un bâtiment, dans un lieu. Il est en moi. Je suis devenu le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, vit en moi. Mais qu'on réalise ce soir que la présence de Dieu en nous, la présence de Dieu avec nous, la présence de Dieu à nos côtés chaque jour, chaque instant, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais ça doit changer quelque chose dans notre vie. Savoir qu'il est là avec nous, ça veut dire que à tout moment, à tout instant, quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit, il est là. Quand on a besoin de lui, il est là. Quand on a besoin de réconfort, quand on a besoin de conseil, quand on a besoin là de tendresse, d'amour, d'affection, il est là. Mais quand on réalise que c'est le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu saint, 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 qui est venu habiter et qui veut habiter dans nos cœurs, dans nos vies, dans notre être tout entier. Mais quelle puissance extraordinaire! Quelle grâce, quel privilège. Et on comprend fort bien l'expression de l'apôtre Paul qui va dire que nous, on ressemble à des vases de terre, des vases bien misérables, des vases bien vils, des vases de terre, parce qu'en ce temps-là, il y avait des vases un peu mieux que des vases de terre. Hein. Il y avait des vases en or, en argent, en métal précieux. L'apôtre Paul, il dit, nous, c'est comme si on était là des vases de terre, des vases qui n'avaient pas beaucoup de valeur, qui pouvaient même des fois avoir quelques fuites. Et ces vases de terre, Dieu a choisi d'y mettre un grand prix, un parfum de grand prix à l'intérieur. Dieu a choisi de mettre en nous, alors que nous sommes un contenant si misérable et si peu précieux, Dieu a choisi de mettre en nous quelque chose de tellement précieux, sa présence. Dieu lui-même est celui qui veut habiter dans nos cœurs, même si on ne le mérite pas, même si on semble tellement misérable, même si on dit « Oui, mais moi, qui suis-je ?» Dieu veut, parce que c'est le plan de Dieu, dès la fondation du monde, de venir habiter au milieu de son peuple, de venir être en contact avec l'humanité, pas seulement avec telle ou telle personne, mais avec toi ce soir aussi. Être là en communion avec toi. Pas être seulement Emmanuel pour les autres, en disant « Oui, je comprends que Dieu est avec vous. Je comprends que Dieu est avec telle ou telle personne. » Ça se voit même d'ailleurs, peut-être. Mais en ce qui vous concerne ce soir, est-ce que vous pouvez dire « Je sais que Dieu est avec moi. » Mais si Dieu est avec moi, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas agir. Je ne peux pas faire comme si Dieu n'était pas là. Je ne peux pas dire, Seigneur, bouge-toi les oreilles là. Je vais, regarde pas. Je vais aller dans un endroit qui est peut-être pas trop convenable. Seigneur, là, écoute pas trop ce que je vais dire. Écoute pas trop ce que, regarde pas trop ce que je vais faire. Non. Il est avec nous, non pas pour nous surveiller, non pas pour être sur notre dos, mais il est avec nous pour nous aider. Il est avec nous pour nous fortifier. Il est avec nous pour nous encourager. Il est avec nous pour nous qualifier pour la mission à laquelle il nous appelle. Parce que c'est ça, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le répète ce soir, c'est ça le contexte de Matthieu 28, 20. C'est qui le verset 19 avant le verset 20 ? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous réalisons que Dieu nous a donné une mission et qu'on est là dans l'obéissance à sa parole, qu'on obéit à sa parole, qu'on dit « Seigneur, moi, je réalise la mission à laquelle tu m'as appelé, d'être ton témoin, d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et à enseigner, à observer tout ce que tu nous as prescrit, tout ce que tu nous as révélé, tout ce que tu nous as donné au travers de l'Écriture, au travers de ta parole. » Eh bien, tu nous fais la promesse d'être avec nous. Et voilà que la présence de Dieu, c'est pas un parfum de grand prix, c'est pas quelque chose qui va venir illuminer notre vie, c'est pas une lumière qui va venir en nous pour que on l'utilise à toutes sortes de fins, à toutes sortes de choses futiles, à toutes sortes de choses inutiles, toutes sortes de choses qui rendent gloire aux hommes et non à Dieu. Vous savez, quand Jésus est venu dans la présence d'Hérode, Hérode s'est réjoui. Hérode a dit, c'est formidable, voilà enfin ce fameux Jésus. Ça fait des mois que j'en entends parler, j'en dormais plus la nuit parce que je pensais à ce Jean-Baptiste que j'avais fait décapiter. Et voilà que Hérode se retrouve dans la présence de Jésus. Et il se réjouissait, se disant en lui-même, il va me faire quelques tours de passe-passe. Il va me divertir un peu. J'ai entendu parler de miracles. Voyons voir ça. Jésus, il paraît que tu as guéri des aveugles. Jésus, il paraît que tu as guéri des lépreux. Il paraît que des paralytiques, là, se sont levés et ont marché sur ta simple parole, un simple mot. Et il y a eu des prodiges, des miracles. J'ai même entendu parler de morts qui sont ressuscités. Et voilà que Hérode se trouve dans la présence de Jésus. Et là, Jésus est avec Hérode. Quelque part, comme Emmanuel, dans Hérode se trouve dans la présence de Jésus. Mais il y a un mobile qui n'est pas correct. Hérode, lui, il est là et il veut de Jésus. Il veut en extraire quelque part sa puissance en disant « Montre-moi, Seigneur, que ça fasse comme du spectacle, comme toutes sortes d'affaires. » Mais Jésus n'est pas là pour ça. Jésus n'est pas là. Et la présence de Jésus, c'est pour sauver, c'est pour secourir, c'est pour délivrer. C'est pas pour glorifier les hommes. C'est pas pour que la gloire retombe sur Hérode. C'est pas pour venir impressionner et pour venir la divertir. Jésus a une mission beaucoup plus grande et beaucoup plus noble. Et de la même manière en ce qui nous concerne, la présence de Dieu dans notre vie, la puissance de Dieu dans notre vie, c'est pas pour divertir, c'est pas pour impressionner, c'est pas pour dire « Seigneur, là j'aimerais tellement pouvoir faire des miracles afin que ceux qui me connaissent là puissent dire « Oh là, quel homme celui-là de Dieu, quelle puissance il a !» Non, il ne faut pas dire « Seigneur, là remplis-moi de ta puissance, remplis-moi de ta présence, que vraiment là, tout ce que tu es puisse se manifester en moi pour que j'en sois glorifié. » Non, pour que Dieu soit glorifié, pour que lui soit honoré, pour que tous ceux jusqu'aux extrémités de la terre puissent connaître la grandeur du nom de Jésus, puissent se repentir de leurs péchés, puissent être sauvés eux aussi à leur tour, puissent être enseignés et observés à leur tour ce que Jésus a prescrit. Et voici, je suis tous les jours au milieu de vous jusqu'à la fin du monde. Jésus est celui qui veut habiter au milieu de nous, qui veut vivre au milieu de nous. Déjà dans Jean 15, il reprend cette expression en disant « Je demeure ». Il veut demeurer en nous. Demeurer en nous. Si quelqu'un demeure en moi, que je demeure en lui, portera beaucoup de fruits. Que nous puissions chercher sa présence et lui viendra à notre contact, c'est sa volonté d'être là. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avec nous, ça veut dire aussi que Dieu n'est pas contre nous. Certains pensent que Dieu est contre nous. Non, Dieu n'est pas contre nous. Il est avec nous. Il est celui qui est de notre bord. Il est celui qui est de notre côté. Généralement, quand on est dans la présence de quelqu'un, à moins d'être hypocrite, quand on est avec quelqu'un, c'est parce qu'on cherche sa présence. Et si Dieu n'est pas hypocrite, s'il vient pour être avec nous, c'est pas pour être contre nous, c'est pour être avec nous. Que personne ne dise ce soir, mais moi Dieu, je sais pas ce qu'il fait en ce qui me concerne, il veut être de ton côté, il veut être avec toi. Mais il attend aussi que toi, tu sois de son côté. Il est Emmanuel. Donc dès le début de l'évangile de Matthieu, Jésus est présenté comme l'accomplissement de la prophétie. Dieu au milieu de vous, il habitera au milieu de vous. On donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous, il est avec nous. Et à la fin de Matthieu, on retrouve cette formidable parole de Jésus. Et voici, je suis avec vous. Dès à présent et jusqu'à la fin du monde. On n'y est pas encore à la fin du monde, mais ça viendra. Mais pour l'instant, cette promesse est encore valable. Cette promesse tient encore. Et on a raison d'y croire. Et on a raison d'y croire et de dire oui. Jésus est toujours Emmanuel. Jésus est toujours Dieu avec nous. Et moi, je veux être avec lui. Et je veux que sa présence là soit toujours dans ma vie. Je veux entretenir sa présence. Mais pas la présence de Dieu pour toutes sortes de mobiles et de fins. Un peu comme Simon le magicien qui voulait la recevoir l'Esprit Saint pour pouvoir faire de l'argent avec ça et faire toutes sortes d'affaires et avoir comme des pouvoirs magiques. Non, non, tu as un mauvais mobile, Simon. Tu as animé d'un zèle qui n'est pas bon et d'un fiel là qui est dangereux et qui va te conduire dans une mauvaise. Il faut que tu te repentes. C'est ce que va dire en substance Pierre et Jean à Simon le magicien. Mais que nous, en ce qui nous concerne, on peut réaliser que Dieu veut nous donner sa présence et il nous l'a déjà donné. Pour certains, beaucoup ce soir, on peut dire oui, Dieu habite en moi, Emmanuel est là. Et bien que sa présence, on puisse réaliser que c'est extraordinaire. C'est là comme si on avait un concentré de lumière. Imaginez la présence de Dieu dans le désert avec Moïse et le peuple. C'était la Shekinah, c'était cette nuée pendant la journée, et c'était cette colonne de feu pendant la nuit, une colonne de feu qui éclairait tout le camp. Et cette colonne de feu, quelque part, cette nuée, veut habiter en nous pour venir nous conduire et nous diriger, nous montrer le chemin, pour venir aussi nous éclairer et que ça puisse là comme jaillir de nous-mêmes, pour venir éclairer ceux qui nous entourent. Oui, nous sommes la lumière du monde parce que Jésus est venu habiter dans notre cœur et qu'on cache pas cette lumière, qu'elle soit pas là diffuse, mais qu'elle soit là précise, claire, qu'elle soit concentrée, que ce soit comme ce laser. Vous savez, un laser, c'est juste de la lumière concentrée. Un laser, c'est juste de la lumière qui est mise dans... On met tous les photons là dans le même sens, dans la même direction, et ça finit par faire un rayon tellement puissant, tellement fort, et bien qu'on puisse pas, quelque part, disperser toute la lumière que Dieu nous a donnée, qu'elle soit pas la perdue, gâchée, à partir dans toutes les directions ou être enfouie sous le boisseau, mais qu'on puisse au contraire dire, Seigneur, tu es avec nous, tu es avec moi, tu es dans ma vie, et que ce que tu m'as donné puisse servir pour le salut de ceux qui sont perdus. Amen. Est-ce que Jésus est avec nous? Quelle puissance avec nous ce soir? Non? Ouais, est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on est conscient? Jésus avec nous? Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? Est-ce qu'on a besoin d'un meilleur pasteur? Si Jésus est là, c'est Jésus qui est important. Allez, invitez les musiciens à venir, qu'on puisse méditer ces paroles et réaliser là ce Jésus. Emmanuel est avec nous ce soir. Alléluia.
Seigneur, tu es là. Quand j'ai besoin d'amour.
Alléluia. On prie ensemble quelques instants. Seigneur, merci pour ton plan divin, pour ta volonté d'être avec nous. Non pas d'être loin là, comme éloigné quelque part derrière un nuage ou je ne sais où. Comme bien des hommes, bien de gens que l'on connaît là te considèrent comme étant un Dieu tellement loin qui aurait du mal même à nous entendre. Seigneur, ce soir, quelle joie dans nos cœurs de réaliser que toi, ta volonté, c'est d'être si près de nous, d'habiter en nous, d'être avec nous, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Seigneur, nous voulons pas là quelque part oublier, comme on le disait ce matin. On veut pas oublier l'enseignement de ta parole. On veut pas oublier ce que tu as pu nous dire. Mais on veut réaliser que si tu es là, on a besoin de rien d'autre, Seigneur. Parce que c'est toi qui guéris. Parce que c'est toi qui relèves. Parce que c'est toi qui restaures. C'est toi qui agis. Parce que c'est dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Parce que c'est dans le nom de Jésus que l'on peut être restauré, sauvé, pardonné. Parce que dans le nom de Jésus, il y a tout ce dont on a besoin. Nous avons tout reçu en lui, dans les lieux célestes. Oh Seigneur, sois glorifié dans cette soirée. Viens Seigneur, comme réveiller notre conscience et nous amener à réaliser ce soir encore qu'on n'a pas besoin d'autre chose, si ce n'est de toi, de ta présence dans nos vies. soit réel, concret pour chacun d'entre nous ce soir. Amen.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.